Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc, dans la première partie de notre cycle héroïque, dans une trilogie locale, donc on a vu le message qui s'intitulait « Où sont les héros d'aujourd'hui ?». Donc voilà, c'est le résumé de la semaine, ou un peu comme dans les séries, si vous avez manqué, donc précédemment, dans, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, où sont les héros d'aujourd'hui et pourquoi s'intéresser à la notion de héros aujourd'hui? Donc, et j'avais dit, entre autres, qu'il y a un besoin d'inspiration, un besoin d'aller au-delà de soi-même, et ces besoins, ils sont en nous. Et bien que hors de la fiction, personne n'y croit plus, non d'une manière générale, hein, mais il y a toujours des croyants et des gens qui y croient. Mais d'une manière générale, beaucoup n'y croient plus dans la vie de tous les jours. Il y a surtout une méfiance qui prédomine, donc on se replie sur soi, on fait attention. Mais nous avions dit qu'il y a un héros en puissance qui habite en chacun d'entre nous. Donc un héros, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un... comme on l'a vu dans la présentation de ce livre, de cet homme, à l'instant, donc quelqu'un qui n'a ni bras ni jambes, et pourtant qui est une source d'encouragement. Donc c'est un homme ou une femme, ils sont devenus conscients qu'en tant qu'individus, ils ont quelque chose, il y a un destin, la vie ne se limite pas à manger, dormir, se faire plaisir, mais il y a un rôle à jouer. Et donc, pour prendre un langage actuel et peut-être qui parle aux jeunes, Dieu nous invite à un jeu de rôle. Et il veut que nous prenions le personnage d'un héros. Donc, les jeux de rôle, c'est des fois tout un groupe de personnes, des fois très diverses, qui composent une équipe, chacun un peu différent. Mais là, il y a des personnages vers lesquels on peut être plus particulièrement attiré. Mais là, Dieu veut qu'on soit le héros de notre propre vie. Il y a des années de ça, à un moment donné, il y avait une série de livres qui s'intitulait aussi « Livre dont vous êtes le héros ». Quelqu'un connaît, ça dit quelque chose. Donc c'était un livre un peu interactif, à mi-chemin entre le roman et un jeu. Vous arriviez à un endroit et donc disiez « Vous faites ceci à... » B, C, et selon le cas, ça vous renvoyait dans une autre partie du livre où il vous arrivait des choses, etc. Donc finalement, c'était une sorte de jeu, mais la vie, c'est pas un jeu, mais Dieu nous invite pourtant à vivre pleinement dans notre vie. Et on va voir aujourd'hui cette question qui fait suite à ce que nous avions vu, où on a dit quels sont les héros d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais parler de qu'est-ce qu'un héros a de plus. Qu'est-ce qui fait que nous faisons une différence ou dans notre vie c'est différent? On a vu que les gens sont des fois des gens simples, mais pourtant que Dieu utilise. Et ça nous permettra aussi de voir, est-ce que nous sommes qualifiés pour être des héros? Et d'une manière très courte et rapide, je peux déjà répondre que Dieu ne cherche pas tant notre qualification que notre disponibilité. Souvent, il a pris quelqu'un, extérieurement, rien ne prédestinait de ces gens à être les héros de la Bible, par exemple. Je ne sais pas si j'en aurais parlé par la suite ou pas, mais un des héros fameux, c'est Gédéon. Et ceux qui connaissent un petit peu le passage, nous est dit que l'ange de l'Éternel lui a apparu alors qu'il était, on peut dire, planqué dans une citerne, un endroit qui abrite de l'eau normalement, mais qui était vide. Là, il battait du grain. Et l'ange lui apparaît et lui dit « Vaillant héros ». Et il dit « Moi, c'est pas possible, tu dois te tromper, c'est pas moi ». Et il a dit « Si, c'est toi que j'appelle ». Donc, première chose de voir qu'est-ce qu'un héros a de plus, regarde ce que tu as. Regarde à ce que tu as. Chacun a des possibilités qui lui sont propres et qui font de lui potentiellement un héros. C'est-à-dire quelqu'un qui brigue un destin. Non pas le destin que quelqu'un d'autre voudrait pour nous. On sait que souvent c'est un problème au niveau de l'éducation des enfants. Des parents frustrés qui n'ont pas pu faire certaines choses, ils poussent leurs enfants dans une direction où ils veulent eux-mêmes se réaliser une deuxième fois dans ce qu'ils n'ont pas pu faire. Par exemple, on pousse l'enfant dans du sport pour qu'il soit à haut niveau, pour qu'il devienne champion de quelque chose que j'ai pas pu faire. ou alors dans une profession que j'ai pas pu atteindre, ou le propulser dans un niveau de la société où on n'a pas pu aller. Donc il s'agit justement pas du tout de ça. C'est pas les autres qui déterminent notre destin, mais c'est nous qui déterminons ce que nous ressentons en nous, ce que je sens pouvoir faire dans la vie. Donc l'objectif, et là c'est déjà révolutionnaire, beaucoup dans la société, on pousse les gens à vite, de bonnes études, un bon job, planquer, et alors tout est assuré, la sécurité, et c'est pas du tout l'idée de Dieu. Parce que ça sert à quoi? Même si vous avez vos biens matériels qui sont assurés, d'avoir vécu une vie complètement à côté de tout ce qui aurait été en vous, que Dieu a disposé en vous. Il est intéressant de voir que dans l'Antiquité, Sparte avait fait un choix. Vous savez qu'ils avaient cette pratique abominable de jeter les enfants du haut du rocher, ceux qui ne correspondaient pas à leurs critères de sélection. Ensuite, les survivants, on en formait des guerriers, mais il nous est dit que de la civilisation de Sparte, il ne reste pratiquement rien, sauf cette mémoire des sacrifices d'enfants qu'ils ont faits, et qu'ils étaient un peuple guerrier. Point final. Alors qu'il y a d'autres civilisations, on a eu des poètes, des philosophes, des artistes qui ont impacté la culture humaine et le monde d'une façon complètement différente. Et cette façon de pratiquer diabolique se répète dans l'histoire encore et encore. Plus près de chez nous, la pensée nazie, c'était aussi de faire disparaître tout ce qui n'était pas exactement comme ça et formaté et à leur pensée, à leur image. Donc, ces choses veulent toujours empêcher l'homme et la femme d'atteindre certaines choses que Dieu, dans sa diversité et dans sa créativité, a disposées en chacun d'entre nous. Donc, le destin, je dois le découvrir, je dois découvrir ce pourquoi je suis fait. Donc, la première caractéristique du héros se situe dans cette affirmation « je sers à quelque chose, j'ai un rôle à jouer, j'ai une mission à remplir ». Blâmer Dieu ne changera pas le monde. Beaucoup posent des questions. On en avait parlé aussi. Où est le Dieu d'Élie? Nous avons cette expression dans la Bible. Les gens autour de nous posent la question autrement. Ils disent, s'il y avait un Dieu, pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça, etc. Mais finalement, c'est la même réflexion. Où est le Dieu? Où il est? Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il fait pas ceci pour moi et cela? Mais nous croyons que la vraie question, c'est où sont les Élie de Dieu? Où sont les prophètes qui se lèvent, qui parlent de sa part, qui veulent changer le monde? De la même façon, on avait vu que le prophète Ésaïe, il entend l'appel divin, qui enverrai-je? Et il répond, me voici, c'est dans Ésaïe 6, 8. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et on avait terminé, vous rappelez la dernière fois sur ça. On prend cette position, me voici, envoie-moi. On est prêt. On a eu la vision céleste. Lui, il avait vu le ciel, il avait vu une partie du manteau de Dieu sur son trône. Et donc, il a été tellement impacté par cette vision céleste et cette réalité des choses spirituelles et invisibles qu'il était prêt à se lancer, à l'audace. Oui, j'y vais, je vais leur parler, sans penser aux conséquences, forcément. Donc, regarde ce que tu as. Nous vivons dans une époque d'anonymat. D'ailleurs, au niveau de l'Internet ou d'autres choses, ou du téléphone, beaucoup de gens ont des pseudos, hein. Donc, on veut agir, mais pas en son nom. Il y a des gens qui lancent des trucs, lettres anonymes, mais on veut pas signer. Donc, on veut être comme les autres. On cherche à se rassurer, prendre le moins de risques possible. C'est le moyen le plus efficace de se persuader qu'on est insignifiant. Autrement dit, de tuer le héros en soi. Je ne sers à rien. Ressentir cela, non pas se l'entendre dire, mais le croire, voilà le pire qui puisse arriver à quelqu'un. Le pire, vous entendez? Vous croyez que c'est trop fort cette expression? Non, c'est le pire qui puisse arriver, de croire que vous êtes insignifiant. Parce que qu'est-ce que vous faites en faisant ça? Vous vous enterrez vivant. Dans les évangiles, à un moment, il y a le chapitre 25 où le Seigneur parle de ces gens qui ont reçu une certaine somme d'argent. Et ensuite, ils devaient faire fructifier cet argent et ramener au maître le résultat de leur labeur. Donc, chacun est venu à tour de rôle. Et le dernier, il est venu, il avait reçu juste un sac d'argent. Et il s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre, eh ben le voilà, je te le rends. Donc, cacher le sac d'argent, ça veut dire le don, on va parler autrement maintenant. Cacher le don de Dieu qui est en vous, l'enfouir en vous. Nous sommes nés de la terre. Chacun d'entre nous, on a été tiré de la terre. Dieu a pris de l'argile, enfin je sais pas quel matériau, et il en a fait Adam, il a fait l'homme. Donc nous sommes tous issus de la terre. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt, on a ces expressions, on dit voilà, on retourne à la terre, la cendre retourne aux cendres, etc. Donc on est issus de la terre, donc nous sommes formés en partie de la terre. D'ailleurs, un peu dans les mêmes proportions, hein, au niveau de la planète, 70% d'eau, grosso modo, on ne fait pas des calculs savants, mais nous aussi, on est formés en grande partie de l'eau, et donc, on peut choisir d'enfouir ça en nous, et donc de ne pas utiliser ce que Dieu nous a donné. Et donc, un jour, on viendra en disant, « Salut, Seigneur, j'ai eu peur, j'ai jamais rien fait, j'ai pas osé, j'avais pas d'audace. » Reprends ce que tu m'as donné. » Non, c'est pas ça le but et le plan de Dieu. Au contraire, en le faisant fructifier, vous allez vous épanouir, vous allez vous développer, vous serez une source de bénédiction. Donc la notion de héros, elle est directement liée à la dignité. Être quelqu'un, c'est-à-dire devenir soi-même, sans que ça soit au détriment des autres. Ça aussi, dans le monde, beaucoup, ils pensent atteindre certains objectifs en écrasant, jouant des coudes, écraser les autres, comme si ça les faisait monter. Ça ne fait monter personne comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, être quelqu'un, c'est le droit légitime de chaque individu. Et on peut le revendiquer sans honte. Et c'est comme ça que se manifeste en nous l'appel du héros. Les expressions du style « tu n'es rien qu'un bon à rien, un moins que rien », des fois on cherche à être quelqu'un d'autre, ressembler aux autres. Et c'est là qu'on n'est pas bon. Chaque fois que vous voulez être quelqu'un d'autre, c'est se tromper. Pourquoi voulez-vous devenir quelqu'un d'autre? Dieu a fait de toi un original et beaucoup de gens passent toute leur vie à vouloir être des copies. On est dans des raisonnements qui sont tordus. Donc, ce que tu dois faire, c'est découvrir tes propres qualités. Peut-être tout le monde les appréciera pas, mais de toute façon, tu ne feras jamais plaisir à tout le monde. Mais d'être constamment esclave, de plaire aux autres, que vont-ils penser, etc. On en a encore parlé avec un ami il n'y a pas longtemps. Toujours être dans comment vont réagir les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser. Des fois, on a des gens qui parlent dans notre vie. Il y a plus de 15 ans, cela, un ami américain avait dit cette expression, il a dit... Je ne vis pas dans ta tête, je vis dans ma propre tête. Cette expression m'a tellement marqué qu'elle m'accompagne encore aujourd'hui. Donc, je ne suis pas tout le temps en train de penser ce que vous êtes peut-être en train de penser et que d'autres sont en train de penser. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu a placé en moi. Donc, deuxième point, Dieu a mis des dons en nous. 2 Pierre 1:3 nous dit, sa divine puissance nous a donné tout. Tout le monde dit tout ?
Tout
ce qui est nécessaire à la vie, à la piété c'est l'attachement à Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Donc ces choses nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. On comprend facilement le terme « participant ». Dans beaucoup de choses dans le monde, il y a les acteurs et il y a les spectateurs. Il y a ceux qui bougent même pas pour se déplacer, pour regarder, mais ça c'est encore pire. Mais déjà, disons, si vous êtes allé quelque part à un match ou un spectacle, il y a des gens qui agissent et d'autres qui font rien que de regarder. Donc, nous sommes appelés à être des participants de la nature divine. On n'est pas appelé, même si nous parlons du terme de héros, on n'est pas appelé à être 99, à nous tourner les pouces et regarder ce que un fait. Mais nous sommes chacun appelés à participer à quelque chose qui est, on a dit, glorieux, qui vient de Dieu. Ça vient de sa gloire et de sa force. Donc la traversée du héros représente avant tout un voyage. C'est un voyage pour retrouver le trésor de notre être véritable et profond. Si c'est un programme, c'est pas un truc juste basique ou animal, hein. On n'est pas des animaux évolués, on est plus que ça. Nous sommes des êtres spirituels créés à l'image de Dieu, avec une destinée, et donc on fait ce voyage sur terre. D'ailleurs la Bible prend cette expression, dit « nous sommes des étrangers et des voyageurs sur terre ». Nous habitons dans un corps pour un temps, en réalité nous sommes extraterrestres, créés à l'image de Dieu qui est le céleste, et donc pour un temps nous sommes sur la planète Terre où nous évoluons. Mais ce corps, c'est pas nous, c'est une partie de nous, une partie qui nous accueille. Mais quand ce corps disparaît, soit qu'il meure, soit qu'il se transforme, alors notre être véritable, spirituel, continuera d'exister de toute éternité dans la présence de Dieu. Mais pour le moment, on est dans ce voyage et on peut donc choisir la façon dont on va le vivre. Donc moi, je vous invite à vivre ce voyage comme des héros. Donc, on veut découvrir notre être véritable pour ensuite revenir à la maison et en faire un don pour aider, transformer le royaume et notre propre vie. Donc c'est comme un voyage où quelqu'un partirait de sa maison, il fait un circuit et puis ramène, je sais pas, comme les touristes, des photos, des souvenirs, des cadeaux. Et il a été lui-même enrichi de tout ce qu'il a vu et il peut donc faire profiter d'autres de toutes ces choses qu'il a glanées, qu'il a ramassées. Donc la mission en soi, c'est pas un voyage toujours de tout repos, hein. Il y a des périls, il y a des obstacles. Mais Jésus nous a dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit cela », il a donné toutes sortes d'exhortations à ses proches, à ses disciples, et il a dit « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi ». Parce qu'il avait dit « Attention, il va se passer des choses, ça ne sera pas toujours facile, et tout ça, mais je vous donne ces paroles pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde ». Voilà, il s'agit pas de faire comme les autruches, la tête dans le sable, tout va bien, etc. Non, il s'agit d'affronter certaines situations. Il s'agit pas non plus de se remplir d'images d'horreur sans cesse pour après être tellement saisi par la peur qu'on n'ose plus rien faire. Il faut simplement savoir, c'est une réalité, que la mission, elle peut être jalonnée de périls, d'obstacles, mais aussi elle apporte de grandes récompenses. Savoir qu'il y a une récompense au bout de quelque chose est souvent ce qui nous motive. Les athlètes sont prêts à s'astreindre, un entraînement, une hygiène de vie pour beaucoup de choses. Les étudiants qui sont vraiment motivés pour avoir leur diplôme, leur formation, sont prêts à sacrifier des loisirs, d'autres choses, de ne pas se laisser vivre en vue de quelque chose, parce qu'il y a une récompense. Il y aura quelque chose, un apprentissage qui va nous permettre d'aller dans l'étape suivante de notre vie. Donc il y a aussi de grandes récompenses. Cette capacité d'avoir du succès dans le monde. Je dis dans le monde et pas forcément selon le monde. C'est une nuance importante. C'est pas forcément de copier ce que d'autres font. Et une récompense qui peut vous paraître un petit peu mystique, mais c'est connaître des mystères de l'âme humaine. Beaucoup de gens sont intéressés par la psychologie, même s'ils mettent pas le nom dessus. Ils veulent quand même apprendre à se connaître pour pas vivre toute notre vie avec nos défauts et nos casseroles qu'on traîne, en dire « mais j'ai envie d'évoluer, j'ai envie dans la prochaine fois que j'affronte telle situation de ne pas réagir de la même façon, mais peut-être d'apprendre à affronter certaines choses. » Donc j'apprends les mystères, un mystère c'est quelque chose qui est caché, ça veut pas dire qu'il doit toujours rester caché, de l'âme humaine, de dire « ah ouais, c'est comme ça que je fonctionne ». Quand on me provoque, je réagis au quart de tour. La prochaine fois, je sais que s'il va me dire ça, je vais peut-être d'abord y réfléchir à deux fois, ou des choses comme ça, pratiques, pour savoir comment s'en sortir. Il y a d'autres choses qui, des fois, produisent en nous une déprime et d'autres. Donc, vous pouvez peu à peu apprendre comment vous êtes, comment vous fonctionnez, pour ne pas tomber toujours dans le panneau et toujours dans les mêmes pièges. Donc d'autres récompenses, c'est une opportunité de trouver, exprimer des dons uniques dans le monde. Il y a une chose qui m'étonne, c'est que avec la gamme musicale et les quelques notes, il y a des gens qui ont composé et encore composé. Des fois, je me dis, mais comment font-ils pour encore inventer des nouvelles mélodies, etc. Bon, bien sûr, il y a des copies du plagiat, ça, il y en a beaucoup. Mais quand même, que simplement avec la musique, il y a une telle multitude de capacités de création, et je ne parle pas des différents instruments et styles, etc., mais juste à ce niveau, qu'il y a des dons uniques dans le monde et qu'on peut encore les exprimer. Et vivre aussi une réelle relation d'amour avec ceux qui nous entourent. Parce que l'amour, il est défini tout le temps dans toutes sortes de situations. Mais on sait qu'on peut dire, comme j'avais un ami qui disait toujours cet exemple, j'aime le chou-fleur, j'aime ma voiture, j'aime ma femme, on met tout dans le même... Et toujours il y a le mot amour qui est utilisé n'importe comment. Mais vivre ces réalités, c'est la récompense d'avoir s'être lancé dans cette aventure, dans cette mission. Donc du fait de notre vision linéaire du temps, on pense qu'il y a un début ici, on va vers là-bas, c'est comme ça pour l'être humain, hein, on ne peut pas avoir une autre conception du temps. Dieu, lui, il est éternel, il est hors du temps, il pense autrement. Mais nous, on pense comme ça. Donc dans la vision linéaire du temps et de son culte du toujours nouveau, la modernité, le monde, ce qui nous entoure, nous pousse dans un changement perpétuel des modes de vie. On détruit sans cesse des repères que chacun se constitue. On veut tout le temps, hop, on casse, maintenant on casse le modèle familial. Dans les entreprises, j'ai entendu une chose qui m'avait beaucoup choqué. C'était le fils d'ami à nous, il était dans une entreprise où au bout d'un moment, chacun n'avait plus son endroit où il travaillait. Mais c'était selon le bureau qui était libre, tu te mets ici, tu te mets là-bas, etc. Et on sait que même si on a des fois envie de changement, on a quand même besoin aussi d'un cadre, de repères, en disant ça c'est l'endroit où je travaille, j'évolue, il y a des gens qui le décorent, qui mettent photos de la famille ou des choses comme ça. Des fois on peut avoir une plante verte ou... Peu importe, mais on construit des choses autour de nous, comme vous le faites pour votre propre vie. Vous décorez votre chambre, ou votre maison, votre jardin. Certains personnalisent et font de la déco de leur voiture, ou je ne sais pas. Mais actuellement, il y a vraiment toute une entreprise de casser ces choses. Il faut toujours du nouveau, encore du nouveau, et du sensationnel. Et ça suscite chez les individus et dans l'inconscient collectif un sentiment que les actes qu'on fait, ils n'ont pas vraiment de fond et de racines. C'est juste, hop, on va nouveau vers quelque chose de nouveau, qui va nous stimuler pendant un moment, mais ça explique aussi qu'il y a une exaltation du moment, et l'instant d'après, il y a des moments de forte dépression. Et ça, c'est particulièrement visible chez les stars de... Ça peut être musique, sport, cinéma. On voit des gens qui sont au sommet, tout le monde rêve. Ah, c'est tellement chouette. Acteur, chanteuse, un truc. Et ils sont au sommet, et l'instant d'après, on entend qu'ils sont drogués, ou alors ils ont bu en état d'ivresse, ou leur vie personnelle est une catastrophe. Il y a toujours ces hauts et ces bas. Parce que c'est ça que ça produit. On n'a pas vraiment cette notion de destinée. Tout ce qui est spirituel, supérieur, éternel, on veut le gommer. On veut vivre que l'instant présent. Or, nous, on fait partie d'un tout. On n'est pas juste dans cette vie pour un certain nombre d'années que les gens espèrent le plus long possible et en meilleure santé possible. C'est plus que ça. Voilà dans quel contexte on est. Il faut qu'on comprenne que les repères de la mode, du moment, sont creux. Ils n'apportent pas la profondeur suffisante pour qu'on ait une consistance devant les événements, les circonstances. Donc, mon troisième point et le dernier, c'est apprends à puiser. Apprends à rechercher en toi ce que Dieu y a déposé. Parce que tu es une créature de Dieu et il a mis des bonnes choses en toi. D'ailleurs, bon là j'ai une version qui le dit un peu autrement, mais Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée 1, 14, « Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. » Il a déposé. On avait parlé tout à l'heure déjà que cette parabole où un homme donne un sac d'argent, ou 5 sacs d'argent, ou 10 sacs. Mais ici, c'est une réalité que Dieu a déposé en chacun de nous quelque chose. Une version dit « le bon dépôt » et là, c'est écrit « le beau dépôt qui t'a été confié ». Un autre endroit, il est dit aussi dans 1 Timothée 6, 12, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. » Vous voyez, tout ça, c'est des verbes d'action. C'est des participants. C'est pas des spectateurs qui attendent que ça tombe du ciel et que Dieu ait tout fait. Mais ils sont participants avec Dieu pour réaliser leur vie. Il y a un combat, c'est vrai. Mais c'est un bon combat. Quel est le bon combat? Pour moi, le bon combat, c'est celui où on gagne. Mais Dieu nous explique que par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Donc c'est un bon combat parce qu'on sait déjà à l'avance comment ça va se finir. Même s'il y a des moments difficiles, on connaît déjà la fin. Et on sait que Jésus a tout fait pour qu'on soit vainqueur à la fin. Donc c'est un bon combat. Saisis la vie éternelle, je dis c'est une action, c'est quelque chose que nous faisons. On prend ce que Dieu nous a donné, on en fait quelque chose. C'est à elle que tu as été appelé. De nouveau la notion d'appel, de destinée. Tu as été appelé, c'est pour elle. Pour cette vie éternelle que tu as fait une belle profession de foi, ou une autre version dit une belle déclaration, où tu as rendu témoignage en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, profession de foi, c'est pas seulement une cérémonie religieuse à un moment précis. C'est toutes les fois où nous sommes appelés à déclarer ce que nous croyons, pourquoi on le fait certaines choses. Et je voudrais dire encore que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il a prévu des choses même avant. Donc quand vous traversez un moment difficile, ne dites pas ah, « qu'est-ce qu'on va faire maintenant, il n'y a pas de solution ». Non, c'est pas ça. Dieu n'est pas dépourvu de solution. Parce que, encore avec cette notion de destinée, dans Éphésiens 1:4, il nous est dit « en lui, en Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde, vous avez été choisis ». Pour que vous soyez saints, sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu. Mais je trouve, des fois, c'est fort. C'est ce qu'il a voulu. Des fois, quand on lit « c'est la volonté de Dieu », ça ne parle pas de la même façon que quand on dit « c'est ce qu'il a voulu ». Il a voulu ça. Et dans quel cadre? Dans sa bienveillance. Pas le Dieu qui surveille, jaloux, qui est prêt à punir. Il y a un dessein de bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Alors cherche-toi des modèles. Premier modèle pour nous, chacun d'entre nous, c'est Jésus. D'ailleurs, il y a un chant où je crois qu'à un moment on chante « Vive notre héros ». Vous vous rappelez de ce chant? Et donc la prochaine fois qu'on le chantera, ça va peut-être vous parler d'une façon toute nouvelle et différente. Jésus est notre héros. Il a fait tout ce que j'ai décrit. Hein. Mais vous pouvez aussi chercher dans des personnages de la Bible, dans des personnes historiques. Dans, même, vous pouvez avoir un héros dans la littérature ou du cinéma. Un personnage, ça vous parle. Je dis, oui, ça me ressemble. Ça, c'est ce que je voudrais être. Pas dans le sens de copier quelqu'un, mais parce que ça fait écho en vous. Voilà des choses que vous aimeriez que Dieu puisse faire au travers de vous. Donc j'ai dit, Jésus est avant tout notre héros. Et en conclusion, j'aimerais dire encore quelque chose concernant les psychologues. Psychologues, je prends d'une manière générale, tous ceux qui s'occupent de l'âme humaine ou des soins au niveau du psyché. Aujourd'hui, ils tentent d'aider les gens à s'adapter à leur impuissance. Souvent, on laisse les gens dans l'état dans lequel ils sont, ce qui ne peut à la longue que les rendre apathiques ou passifs. Ils ne les encouragent pas à entreprendre la traversée susceptible de leur faire découvrir ce qu'ils pourraient être, de les faire devenir cet autre que chacun de nous pressent. Quand je parle de cette manière, ça ne veut pas dire dans l'absolu, je dis tout le monde fait pareil, mais je dis d'une manière générale, on aide plutôt les gens dans l'état dans lequel ils sont, mais pas tant de les faire sortir de cet état vers autre chose. Puisque nous disons que, avant tout, il faut vraiment inviter fortement les gens à dire « Avec Dieu, tu peux vraiment devenir acteur. Tu peux devenir ce que tu pressens que tu es en toi, que tu es en puissance. » Parce que ça veut dire que il faut faire une révolution au niveau de la façon dont on pense les choses et que cette révolution puisse révéler aux gens que l'existence en eux-mêmes, il y a plus que les besoins élémentaires, c'est au niveau de l'être et pas seulement de l'avoir et du paraître. Parce que souvent on est à ce niveau. Les besoins immédiats, la satisfaction des choses matérielles, mais il y a tellement plus à découvrir. Il y a un autre visage pour chacun d'entre nous. Il est créateur et il est source de transfiguration. le mot est lâché, transfiguration, mais parce qu'il y a aussi cette révélation de Jésus que déjà lorsqu'il était sur terre dans son ministère terrestre, il a vécu cette relation avec le ciel où il nous est dit, à un moment donné, les disciples étaient là et ils ont vu ce rayonnement sur la personne de Jésus qui était extraordinaire. Et cette transformation, on est appelé chacun de nous à la vivre. Donc on est des gens simples, ordinaires, avec une petite foi, mais en un grand Dieu extraordinaire et qui nous appelle à être transformés par lui. D'accord ? Alors laissez-vous transformer de gloire en gloire. Le verset que j'avais pris la première fois au début, j'aimerais le relire encore pour terminer. Et c'était dans Joël 4:9. J'ai fait quelques petits changements sans tordre le sens des Écritures. Il nous est dit « Proclamez ceci parmi les nations ». Préparez la guerre. Réveille le héros qui est en toi. Qu'il s'approche, qu'il monte, tous les héros. De vos socs de charrues, forgez des épées. De vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Dépêchez-vous de venir. Là encore, c'est pas spectateur passif, hein. C'est acteur. Dépêchez-vous de venir. Vous, toutes les nations environnantes, et rassemblez-vous. Là, Éternel, fais descendre tes héros. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.